Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alia Tovin, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée à l'économie de l'aviation. Une économie en pleine transformation à l'heure des défaillances techniques du géant américain de l'aéronautique et de la montée en puissance de la concurrence chinoise. Le règne sans partage d'Airbus et de Boeing serait-il menacé ? Nous en parlerons demain avec l'économiste Marc-Daniel Seffer. Mercredi, nous verrons comment le modèle du low cost, largement fragilisé, tente aujourd'hui de se réinventer. Jeudi, enfin, nous reviendrons sur la privatisation contestée des aéroports français. Mais pour l'heure, partons à la conquête du ciel en compagnie des frères Montgolfier et de leur premier ballon s'élevant dans les airs sous les yeux du roi en 1783. Une invention qui sera suivie au 19e siècle d'une quête éperdue de progrès et d'une passion sans fin pour l'aventure aérienne. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons embarquer à bord des premières machines volantes en compagnie de Luc Robène, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux, auteur de L'homme à la conquête de l'air paru chez L'Harmattan, en compagnie également de Michel Polacco, journaliste spécialiste de l'aviation et auteur d'une brève histoire de l'aviation publiée aux éditions Jean-Claude Béart. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Durant ce temps, Dédale avait pris en haine la Crète et son long exil. Il ressentait la nostalgie de son pays natal et voyant la mer fermée devant lui, il dit « Que les terres et les ondes me fassent obstacle, soit, mais le ciel reste ouvert, nous irons par là. Minos peut bien maîtriser tout, il n'est pas maître de l'air. » Sur ces paroles, il se concentre sur un art inconnu et impose à la nature des lois nouvelles. En effet, il dispose des plumes régulièrement, on les croirait poussées sur un plan incliné. Alors, il attache les plumes centrales avec du lin et celles d'en bas avec de la cire. Et une fois ainsi disposés, il les incurve légèrement pour imiter les vrais oiseaux. Le petit Icare se tenait près de lui, et le visage rayonnant, ignorant qu'il manipulait un danger pour lui, tantôt il saisissait les plumes déplacées par la brise vagabonde, tantôt à l'aide de son pouce il amollissait la cire blonde, et par ses jeux entravait le travail étonnant de son père. Lorsqu'il eut mis la dernière main à l'œuvre entreprise, l'artisan équilibra lui-même son corps entre ses deux ailes et resta suspendu dans l'air qu'il mettait en mouvement.
Michel Polacco et Luc Robène, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est avec Icare et son père Dédale que nous ouvrons cette émission. On vient d'entendre un extrait du livre 8 des Métamorphoses d'Ovide. Icare et Dédale donc réussissent à s'échapper du labyrinthe où Minos les a enfermés après la victoire de Thésée sur le Minotaure. Et la cire sera fatale au jeune Icare qui commet l'erreur de s'approcher trop près du soleil. C'est un mythe fondateur pour les explorateurs du ciel des 18e et 19e siècles, Michel Polacco.
Oui, c'est un mythe fondateur, mais c'est quand même la suite d'une grande histoire, parce que depuis que l'homme est debout, j'en avais parlé avec Yves Coppens il y a quelques années, dès qu'il a commencé à regarder le ciel plus facilement que l'animal qui marche à quatre pattes, il a commencé à rêver de voler. Et finalement, il va falloir quelques millions d'années à l'homme et un outil. Parce que finalement, on s'aperçoit que l'homme ne peut pas voler comme l'oiseau, il va falloir un outil pour pouvoir voler. Et donc, pendant tout ce temps, mais on peut dire 7, 8, 10 000 années de culture et de civilisation, on va essayer par tous les moyens de voler. Et la mythologie nous présente Icare, mais il y a eu des tas d'autres tentatives qui ont été faites et qui ont, hélas, échoué jusqu'aux frères Montgolfier.
La mythologie nous permet, avec Icare, de voir à la fois la fascination pour l'altitude et en même temps le risque immense que le fait de s'élever dans les airs constitue, Luc Robène.
Oui, je crois qu'on ne peut pas comprendre de toute façon cette histoire de l'aéronautique si on ne se replace pas dans la longue durée. Et la longue durée, c'est le mythe, c'est ce rêve qui vient d'être évoqué. Quand on voit tous ces inventeurs qui parsèment cette histoire de l'aéronautique, leurs passions, leurs engagements. On peut pas comprendre donc ces engagements sans ce temps long et ce mythe qui structure les imaginaires. D'une part, d'autre part, il y a effectivement ce rapport à la technique. La technique, c'est ce qui permet l'homme de se libérer des forces naturelles. Et ma foi, la conquête de l'air en est l'exemple, sans doute le plus clair, avec les risques derrière, effectivement. Mais ce qui illustre aussi le mythe, les risques qui sont liés à l'innovation, à l'expérimentation, on va y revenir, d'appareils nouveaux.
Justement, une première technique, une première expérimentation. En septembre 1783, les frères Montgolfier présentent leur machine au roi en faisant s'élever dans les airs un canard, une poule et un mouton. Alors comment les frères Montgolfier inventent-ils la technique de l'aérostation, Michel Polacco ?
Alors c'est assez étonnant parce que ça fait tellement longtemps qu'il y a des gens qui ont des feux de cheminée dans leur cuisine et qui font sécher leur linge devant leur cheminée. Et il se trouve que Étienne et Joseph Montgolfier, qui sont des garçons assez savants, qui ont fait leurs études à Paris, qui appartiennent à une famille de 16 enfants, de papetiers, mais à l'époque la papeterie c'était quelque chose qui était majeur, qui rapportait beaucoup, puisqu'on commençait à beaucoup imprimer, sont devant leur cheminée, ils ont une chemise qui sèche, ils s'aperçoivent qu'elle se gonfle et qu'elle s'élève, alors ils vont la coudre à une seconde, et puis finalement ils vont faire des tentatives, ils vont s'apercevoir que ça marche pas mal, que finalement l'air chaud a tendance à pousser vers le haut, à créer une force de poussée. Ils vont faire un ballon qu'ils vont mettre à l'extérieur et ils vont faire de nouveaux essais, ça va marcher. Et finalement, ça va très très vite, puisque là, on est pendant l'été 1783. En septembre, ils arrivent à faire une ascension d'un ballon avec personne à bord, mais une ascension qui va monter jusqu'à 400 mètres et en public. Puis le roi, enfin les sociétés savantes apprennent cela. Le roi l'apprend, demande une démonstration, et là, on va avoir le coq, le canard et le mouton qui va être immortalisé, puisque vous savez que Louis XIV va adopter le mouton, qui eux vont monter jusqu'à 500 ou 600 mètres. Et oui, surtout, on apprend qu'on peut vivre à ces hauteurs-là sans mourir. Alors, on savait que quand on montait sur les montagnes, on pouvait grimper et qu'on pouvait encore respirer. Par contre, on ne savait pas très bien ce qui se passait si on montait à 500 ou 600 mètres ou 1000 mètres. Et puis là, on est en septembre. 21 novembre 1783, c'est Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Et 10 jours après, Charles et les frères Robert qui font voler le premier ballon à hydrogène. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'hydrogène qui a été découverte par Cavendish en 1766 est 14 fois plus léger que l'air. Et donc, il y a une concurrence entre le ballon à air chaud, mais chauffé avec le feu, et le ballon à gaz. Et en très très peu de temps, en moins de 6 mois, on est passé de l'homme qui rampe à l'homme qui vole.
Il y a deux choses importantes dans ce que vous dites, Michel Polacco. D'un côté, les frères Montgolfier sont animés déjà par un véritable esprit scientifique, et en même temps, la concurrence est déjà très très rude. Il y a le physicien Jacques Charles qui essaye lui aussi de faire voler son propre ballon, Luc Robène.
Oui, alors les frères Montgolfier, ils ont vraiment, ce qui a été dit, une approche empirique, c'est-à-dire que c'est vraiment la dimension technique. Ils n'ont pas théorisé immédiatement ce qu'ils ont fait, donc ils ont procédé par essais successifs, des enveloppes de plus en plus grandes pour voir quelles charges pouvaient être élevées. Et d'ailleurs, au départ de leurs expériences, ils pensaient que la chaleur était une sorte de gaz, en fait, en réalité. Ils n'avaient pas bien identifié le phénomène. De l'autre côté, Jacques Charles est un physicien qui connaît parfaitement les dernières découvertes en matière de chimie pneumatique. Et cette question de la fabrication de l'hydrogène, de l'air inflammable, comme on dit à l'époque, va devenir assez centrale parce qu'elle intéresse également, à la même époque, quelqu'un comme Lavoisier, qui voit une occasion d'expérimenter, de regarder un petit peu et voir d'améliorer les techniques qui permettent de fabriquer l'hydrogène. À l'époque, dans un premier temps, l'hydrogène, on l'obtient en faisant réagir de l'acide sur de la limaille, de zinc et de fer. Après, avec Lavoisier, on verra que cet hydrogène, on arrive à l'obtenir par la décomposition de l'eau sur le fer rouge.
Et ce qu'on voit, c'est que les ballons cristallisent cette idée de progrès, et c'est ce qui explique l'immense succès public de l'aérostation, Michel Polacco.
Oui, alors on est à l'époque de l'aérostat, hein, c'est-à-dire ce sont des ballons, mais ce sont des ballons qui ne sont pas dirigeables, donc ils vont là où veut le vent. Et ça va durer quand même très longtemps. Hein. Le premier vol Montgolfier ou les frères Charles et Robert, c'est 1783. Il va falloir attendre 1884 pour que la France de Charles Renard, le premier dirigeable, part de Meudon, revient à Meudon et fait près de 8 km avec un moteur électrique. Vous voyez, il va falloir quasiment un siècle. Mais pendant ce siècle, il va se passer des tas de choses absolument formidables dans le ciel. On va découvrir la photographie aérienne, on va découvrir l'observation des troupes ennemies, même si ça va être utilisé de manière très rudimentaire. Enfin, on va découvrir des quantités de choses.
Et en même temps, il faut de l'argent pour mettre en place ces expériences qui peuvent être absolument... Enfin, fatal, Luc Robène.
Oui, il faut de l'argent. Les frères Robert avaient estimé à l'époque que la construction du ballon leur avait coûté 10 000 livres hein, de mémoire, ce qui est énorme à une époque où un journalier gagne une livre par jour. Il faut de l'argent. Je voudrais revenir sur le succès de ces essais. Enfin, c'est un succès spectaculaire qui attire énormément de monde.
C'est cela qui finance en partie les ballons ?
En partie, parce qu'il y a des souscriptions qui sont lancées. Par exemple, celle de Faujas de Saint-Fons qui lance une souscription pour le ballon du physicien Jacques Charles. Mais le public qui assiste aux expériences dépasse très très largement les souscripteurs puisqu'on estime à partir de croisements hein, de témoins de l'époque que à Paris c'est quasiment un habitant sur deux qui s'est déplacé et pratiquement la même chose dans les grandes villes. Je pense à Bordeaux ou Lyon où des foules immenses se déplacent pour assister à ces expériences, avec parfois des conséquences dramatiques quand ça ne marche pas. C'est le cas à Bordeaux. Où en mai 1784, il y a une véritable émeute à la suite d'un échec et on est obligé d'envoyer la troupe pour calmer les mutins.
Parce que le ballon ne s'envole pas, c'est-à-dire que le public est devenu extrêmement exigeant.
Et pourquoi ne s'est-il pas envolé ? Parce qu'en fait, l'enthousiasme des expériences qui se diffusent en France fait que tout le monde veut lancer son ballon. Et cette expérience à Bordeaux de Perrier et Grassi, un parfumeur qui n'est pas du tout rompu, on va dire, aux choses de la science, fait que le ballon ne décolle pas. L'émotion collective atteint son comble. Et finalement, les jurats condamneront à mort et pendu aux grilles du jardin royal, du jardin public à Bordeaux, deux personnes, les deux premières victimes de la conquête de l'air en 1784.
Et alors, qui sont ces premiers aéronautes au XVIIIe siècle, Michel Polacco? À la fois la conception et les expérimentations sont encore l'apanage des élites. Ça va changer, mais plutôt au XIXe siècle.
Alors, on a trois, je dirais, des éléments marquants. Le ballon, donc, vole depuis 1783. 1794, la Convention utilise le ballon de Fleurus pour aller observer les troupes qui tentent de soutenir les émigrés. Et donc, on va organiser un véritable convoi pour pouvoir gonfler d'hydrogène ce ballon de Fleurus. On va d'ailleurs s'apercevoir à cette occasion que l'observateur qui est dans le ballon risque sa vie parce que, évidemment, ce ballon est captif, hein, il est attaché et il est assez facile de lui tirer dessus. Alors ça, c'est le point numéro 1.
On voit que pour les sièges, les ballons peuvent être fort utiles, mais pas vraiment pour les guerres de mouvement.
Voilà, pour les guerres de mouvement, c'est absolument pas ça. On le verra d'ailleurs au début de la guerre de 14. La deuxième chose, c'est les baptêmes de l'air. On va commencer à offrir des baptêmes de l'air, à vendre des baptêmes de l'air. C'est une recette. La troisième chose, c'est l'invention du parachutisme. Parce que jusque-là, avec les essais de parachute ou avec les ersatz de parachute plutôt, on se jetait de tours, d'endroits plus ou moins élevés et généralement ça marchait pas. Alors que là, Garnerin va devenir l'homme qui invente le parachute, il va faire sauter sa femme, enfin il va faire sauter Jeanne Labrosse qui devient sa femme, il va faire sauter sa fille et il va gagner de l'argent. Et même si c'est un artisanat le ballon, on peut dire que pendant quasiment un siècle, cet artisanat va permettre de construire pas mal de ballons dans le monde entier et d'organiser un certain nombre de manifestations qui vont familiariser les peuples et les populations au fait qu'on peut s'élever dans les airs.
Et c'est une affaire de famille souvent, et notamment une affaire de couple. Et il y a certains aéronautes qui réussissent à se tailler une solide réputation. Je pense en particulier au mécanicien Blanchard. Il effectue 61 ascensions dans 9 pays différents.
Oui, Blanchard, c'est le premier. D'ailleurs, c'est lui qui a permis que se diffuse ce spectacle des ascensions. Il va ascensionner partout en France, dans le nord de l'Europe, dans l'Est, il ira même aux États-Unis. Alors la question du couple, de la famille est essentielle parce qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut souligner. Si on voit émerger des femmes dans la conquête de l'air à partir du début du 19e siècle, c'est bien parce qu'il y a un marché qui se dessine et que ce marché va être maîtrisé par des couples, des familles, voire des dynasties à partir d'un certain moment. Et c'est un marché fort rémunérateur hein, qui attire beaucoup de monde, au moins toute la première moitié du 19e siècle.
Et c'est là qu'on passe peut-être d'aéronautes qui font plutôt partie de l'aristocratie à des milieux sociaux de plus en plus variés.
Oui, populaire. Et vous citiez Blanchard, mais sa femme, évidemment, est une, au départ une femme d'aéronaute, elle va devenir une femme aéronaute et voler après la mort de son mari, je dirais de ses propres ailes, gagne de l'argent jusqu'à sa mort dramatique. On évoquait la question du parachute. Il faut savoir que le spectacle aérien qui se développe dans cette première moitié du 19e siècle, c'est à la fois des ascensions, mais aussi des descentes en parachute à partir des ballons, des illuminations, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire des feux d'artifice tirés depuis la nacelle des ballons,
ce qui est
extrêmement dangereux. Et Madame Blanchard en fait la triste expérience, puisque au-dessus de Tivoli, à Paris, elle brûle son ballon sans flamme et elle se tue, c'est en 1819.
Et en même temps, comme le marché se structure, la concurrence devient de plus en plus forte et donc il faut innover sans arrêt.
Il faut innover sans arrêt et je dois dire que la présence même des femmes au départ était, si je puis dire, je mets des guillemets, un ingrédient supplémentaire dans ce spectacle qui était en train de naître. C'est-à-dire que des hommes avaient volé, on a commencé à voir voler des femmes, parfois des enfants, et ensuite on a continué jusqu'à ce que dans les années 1850, on voit Louise Poitevin, par exemple, faire des ascensions juchées sur un cheval. Et on arrive à des extrémités spectaculaires avec toujours cette recherche de la prise de risque qui reste l'ingrédient, la dynamique en réalité de ce spectacle et de ce marché.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au XVIIIe siècle, la pratique était encore interdite aux femmes. Ça va être autorisé à partir de 1804 avec Sophie Blanchard, justement.
Interdite, autorisée, c'est plus subtil que ça. Disons que quand Garnerin commence à vouloir s'envoler avec Mademoiselle Henri, qui est probablement sa maîtresse, on lui fait comprendre que c'est pas très convenable, alors avec des arguments qui sont derrière, des arguments hygiénistes, si je puis dire, ou de santé, etc. Mais qui masquent difficilement, évidemment, une chape
sexiste,
voilà, pour employer un mot un petit peu moderne. Mais et c'est là que ça devient intéressant, l'émotion suscitée par ce spectacle est telle que les barrières vont s'abattre, le succès face aux foules est tel que les barrières vont s'abattre et que les femmes, en grande partie les femmes, Elisa Garnerin par exemple, est une star. Qui va aussi bien voler pour les princes que pour les foules, qui est acclamée le soir au balcon à l'opéra, tout le monde se lève quand elle rentre, c'est une véritable star.
Et dans ce marché, il y a à la fois le spectacle, mais il y a aussi les voyages aériens d'agrément qui se développent. Et là encore, on a besoin d'aéronautes pour accompagner ce public.
Alors, on ne sait pas où on va, il ne faut jamais l'oublier. C'est qu'on va mettre un siècle à pouvoir décider à peu près de sa destination. D'ailleurs, la première utilisation qu'on va appeler industrielle du ballon, ça va être la guerre de 1970. Pendant la guerre de 1970, un homme qui est déjà connu, qui s'appelle Nadar, qui a notamment utilisé... 1870, la guerre de 1870. Un homme déjà connu qui s'appelle Nadar, qui notamment a fait les premiers clichés photographiques à partir d'un ballon, mais qui est un homme passionné par l'usage du ballon, va suggérer pendant le siège de Paris, alors que Napoléon III est prisonnier à Sedan, d'utiliser des ballons pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc les ballons partent de Paris. On construit des ballons dans Paris, on les gonfle, on utilise à l'époque les gares comme lieu, comme port, si on peut dire, puisqu'il n'y a plus de train, évidemment, puisque Paris est assiégé. Et on va avoir 66 ballons montés qui vont quitter Paris, qui vont transporter 160 passagers, qui vont transporter, je crois, quelques chiens, on ne sait plus très bien pourquoi, qui vont transporter énormément de courriers et qui vont transporter le fameux Gambetta, puisque Gambetta doit rejoindre les troupes françaises sur les bords de la Loire. Il part en ballon, il s'envole en ballon et il termine à Beauvais. Et il croit qu'il est derrière les lignes prussiennes en plus, ce qui fait qu'il est convaincu qu'il va mourir. Il s'élève, il crie « Vive la République !» Il attend la mort et on lui répond « Vive la France !» car il est,
et il
coup
est sauvé
de chance du côté des lignes françaises. Voilà. Mais si vous voulez, 5 des 66 ballons sont allés se perdre dans l'Atlantique, en Norvège ou je ne sais où. Tant qu'on n'a pas inventé le dirigeable, on ne sait pas où on va. Donc quand vous parlez du voyage aérien, on peut dire qu'on sait d'où on part. Et puis après, au bout d'un certain temps, quand l'air est froid, ou bien quand il n'y a plus assez d'hydrogène parce qu'il y a des fuites, etc., eh ben, ça se pose quelque part.
Alors avant d'arriver à la deuxième moitié du 19e siècle, restons encore un petit peu dans cette période de la restauration. C'est une période, Luc Robène, pendant laquelle on assiste à une séparation peut-être entre deux conceptions de l'aérostation. D'un côté, le spectacle populaire, et de l'autre, un voyage aérien qui est à la fois mondain et scientifique.
Alors, La période de la restauration, on est encore vraiment dans le spectacle populaire, hein, pour le coup. Les spectacles que j'évoquais à l'instant sont battent leur plein, si je puis dire, et le marché s'organise autour de ça. Néanmoins, quelques professionnels de l'air, comme Charles Green, par exemple, et quelques autres, ont commencé à proposer des ascensions en ballon captif, ou parfois des baptêmes de l'air.
En ballon captif ?
Oui, retenu par un câble, hein, pour faire
comme sur les quais de la Seine, voilà. Vous savez, il y en a quelques-uns
pour donner à un public plus large l'émotion de l'ascension, mais sans prendre énormément de risques. Bon, et cette question des baptêmes de l'air, par contre, est intéressante parce que si je prends le cas de Bordeaux que j'ai bien étudié, on voit de quelle manière des jeunes gens de bonne famille commencent eux aussi à s'intéresser à cette question et à venir tâter un petit peu du danger et regarder un petit peu ou ressentir précisément ce qui se passe quand on est en l'air.
Et alors justement, en 1863, c'est peut-être Jules Verne qui décrit le mieux l'expérience du voyage dans les airs dans son roman « 5 semaines en ballon ».
Avec lui, tout est possible. Sans lui, je retombe dans les dangers et les obstacles naturels d'une pareille expédition. Avec lui, ni la chaleur, ni les torrents, ni les tempêtes, ni le simoun, ni les climats insalubres, ni les animaux sauvages, ni les hommes ne sont à craindre. Si j'ai trop chaud, je monte. Si j'ai froid, je descends. Une montagne, je la dépasse. Un précipice, je le franchis. Un fleuve, je le traverse. Un orage, je le domine. Un torrent, je le rase comme un oiseau. Je marche sans fatigue. Je m'arrête sans avoir besoin de repos. Je plane sur les cités nouvelles. Je vole avec la rapidité de l'ouragan, tantôt au plus haut des airs, tantôt à 100 pieds du sol. Et la carte africaine se déroule sous mes yeux dans le plus grand atlas du monde.
Un extrait du premier livre de la longue série qui formera les voyages extraordinaires de Jules Verne. Le roman raconte l'expédition du docteur Ferguson qui décide de traverser l'Afrique d'est en ouest en ballon en compagnie de son ami Dick Kennedy et de son domestique, le fidèle Joe. Que vous inspire ce texte, Michel Polacco ?
Il m'inspire le côté, avant-gardiste de Jules Verne. Il n'y a aucun doute, Jules Verne a su utiliser les techniques qui apparaissaient comme étant émergentes de son temps. Il a su utiliser les personnages, puisque certains des personnages sont des personnages inspirés de gens existants, hein, comme Ardan, qui est l'anagramme de Nadar, qui est un des personnages des romans de Jules Verne, 5 semaines en ballon, etc.
Et qui était également son ami.
Moi, vous n'avez pas parlé du Tour du Monde en 80 jours, qui est quand même un de mes préférés, avec Phileas Fogg. Jules Verne nous ouvre véritablement la porte ou la fenêtre vers l'astronautique. C'est-à-dire que non seulement c'est le voyage aérien, c'est la traversée des océans, c'est l'homme dans le ciel qui se déplace et qui, quelque part, malgré les éléments, arrive à choisir plus ou moins sa route, ce qui n'est pas si évident que ça. Mais c'est aussi la conquête de la Lune. Enfin, ça va très très loin. Ça va même jusqu'à des instruments qui n'ont rien à voir. Lorsqu'il écrit Paris en 1960, qui a été publié il y a peu d'années, hein, il y a une vingtaine d'années, et où il a déjà imaginé un certain nombre des outils que nous connaissons aujourd'hui, comme le fax ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, voilà, Jules Verne, je trouve qu'il est à la fois l'homme qui va aider les gens de science et l'homme qui va faire découvrir les gens de science. Parce que grâce à lui, on peut pousser la recherche, c'est formidable.
Et Jules Verne qui va d'ailleurs lui-même construire son propre ballon, le géant, à cette période également. Ce qu'on voit peut-être avec Jules Verne, Luc Robben, c'est qu'il y a à la fois cette idée de la conquête de l'air et qui va peut-être de pair aussi avec la colonisation. Ce n'est peut-être pas un hasard si c'est le continent africain qui est choisi pour ce voyage.
Je reviens d'un mot sur Jules Verne. Il permet aussi de voir comment se transforme ce que j'appellerais la sociabilité aussi aéronautique. C'est-à-dire que, bon, on a vu les sociétés savantes au 18e, on a vu les réseaux professionnels dans la première moitié du 19e siècle, les dynasties d'aéronautes, pour faire vite. À partir des années 1850, on voit émerger une mise en réseau des compétences aéronautiques avec des société savante d'un nouveau type, la Société aérostatique et météorologique de France, qui deviendra la Société française de navigation aérienne. Il y avait aussi la Société d'encouragement pour l'aviation de Nadar. Et c'est au cœur de ces assemblées que Jules Verne va puiser son inspiration. On sait qu'il assiste au débat, notamment par exemple au débat très animé entre partisans du plus lourd et du plus léger que l'air.
Faut que vous nous expliquiez le plus lourd et le plus léger, à quoi ça correspond.
Les machines qu'on imagine
le cœur du sujet, là.
Sur le modèle de l'oiseau, finalement. émotionnellement qui est physiquement plus lourd. Elle battante ou pas, on verra. Et le plus léger que l'air, c'est ce dont on vient de parler depuis le début de l'émission, c'est-à-dire soit des montgolfières, mais qui ont été très largement détrônées très rapidement par les ballons. Donc Jules Verne, il est au cœur de cette nouvelle sociabilité du savoir aéronautique qui est en train, à partir des années 1850, de rendre, je le dis très simplement, son sérieux à l'aéronautique après cette période de spectacle. Voilà. Mmh. Alors ça c'est important. Sur la dimension des conquêtes, l'autre aspect que je trouve intéressant sur Jules Verne, c'est que il est, si je puis dire, dans l'air du temps. Il nous décrit des voyages aériens où on se sert surtout des courants aériens, puisqu'on sait toujours pas naviguer dans les airs. Alors des grands espaces, la conquête évidemment, mais ça traduit vraiment la problématique du moment qui reste pour tout le 19e siècle. Comment on va pouvoir diriger les ballons. C'est vraiment le problème numéro un.
Il y a une expérience qui est menée, avant de revenir évidemment sur le débat entre plus léger et plus lourd que l'air. Il y a ce nouveau modèle de ballon qui est présenté par Henri Giffard en 1852. Et là, c'est le premier vol semi-dirigé. Donc, on voit que ça commence à progresser au milieu du 19e siècle.
Alors oui, c'est le premier vol semi-dirigé, mais Giffard va utiliser un moteur à vapeur de très faible puissance.
Un siècle après l'invention par Fulton,
de Dit Papin, etc. Et si vous voulez, les résultats sont quand même absolument pas probants. Ils sont tellement pas probants d'ailleurs que ça ne va pas déboucher et que on est en 1852. Il va falloir attendre 1884 pour voir le premier ballon dirigeable à peu près digne de ce nom, qui est absolument immense, qui emmène des tonnes de batterie et qui pourtant va faire un vol qui va durer assez peu de temps puisqu'il va faire à peu près 8 kilomètres. Et on va aller comme ça jusqu'à l'apogée du ballon, hein, 1937 et le Hindenburg. Et comme il va y avoir des impasses dans l'histoire de l'aéronautique ou de l'astronautique, hein, il y a l'impasse du ballon à air chaud, il y a l'impasse du ballon à gaz, et il va y avoir l'impasse de l'hydravion des années après. Et puis finalement, on est devant ce super sujet qui est le plus lourd ou le plus léger de l'air.
On en reparle dans un instant.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini. You must
Vous écoutez High Flying Bird de Jefferson Airplane sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, et nous poursuivons notre histoire de la conquête du ciel avec Luc Robin et Michel Polacco. Nous sommes au milieu du 19e siècle et pour certains explorateurs, l'heure est venue de tuer le père, en l'occurrence la montgolfière.
La première nécessité pour l'autolocomotion aérienne est donc de se débarrasser d'abord absolument de toute espèce d'aérostat. Ce que l'aérostation lui refuse, c'était la dynamique et la statique qu'elle doit le demander. C'est l'hélice, la sainte hélice, comme me disait un jour un mathématicien illustre, qui va nous emporter dans l'air. C'est l'hélice qui entre dans l'air comme la vrille entre dans le bois, emportant avec elle l'une son moteur, l'autre son manche. Il n'est pas besoin d'insister sur l'imperfection forcée, et si encourageante, de ces engins d'essai, obtenus dans les pires conditions à tout point de vue et qui sont purement embryonnaires. Supposez-les perfectionner, et pour ce faire, confiez-en l'établissement dans les proportions pratiques aux ateliers spéciaux. Qu'un comité choisi parmi les plus compétents en dirige les dispositions, et je doute qu'il puisse rester, dans l'esprit même le plus prévenu, le moindre doute sur la possibilité de l'autolocomotion aérienne.
Un extrait du manifeste de celui qu'on appelait donc Nadar, journaliste photographe. Manifeste publié en 1863 et lu ici par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Ce que défend ici Nadar, Luc Robin, ce sont les appareils à hélice par opposition au ballon dirigeable.
Alors ce que défend Nadar, c'est surtout le plus lourd que l'air. C'est-à-dire que Nadar dit en substance, pour se diriger dans l'air, il faut être plus lourd que l'air. Et ça, c'est quand même une formule relativement nouvelle, où il a le mérite de communiquer là-dessus et d'entraîner avec lui du monde, parce qu'il y a cette fameuse société d'encouragement pour l'aviation. Le manifeste vient s'agréger à ce rassemblement de personnes qui croient à la sainte hélice et au plus lourd que l'air. Nadar va également lancer une revue qui s'appelle L'Aéronaute, qui est une revue fondamentale, qui ne va durer que 4 numéros, mais qui sera reprise par la Société française de navigation aérienne, qui est une revue, c'est la première revue du genre, hein, qui permet de collecter des informations scientifiques, de faire un point sur les expériences. Donc Nadar est un personnage qui est convaincu à plus ou moins court terme ou plus ou moins long terme que le salut viendra du plus lourd que l'air.
Mais qui est l'auteur de cette expression, plus lourd que l'air? On pense que c'est Nadar.
Non, Nadar, il dit simplement, pour se diriger dans les airs, il faut être plus lourd que l'air. Alors bon, on peut à partir de là spéculer sur le fait qu'on a construit une expression autour de ça, mais Nadar est surtout vraiment celui qui va fédérer des gens autour de cette idée, sans toutefois négliger le plus léger que l'air, puisque avec son ballon, le géant, il fait il espère financer en fait. C'est le génie de Nadar, la partie plus lourd que l'air par le moins lourd que l'air. Bon, de la même manière qu'une société comme la Société française de navigation aérienne, quand elle sera définitivement tournée vers l'aviation, continuera néanmoins à travailler sur le plus léger que l'air, ne serait-ce que pour connaître l'atmosphère et aller plus vite et plus loin sur cette question de l'aviation.
Parce que le vocabulaire est important, c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît le mot aviation, qui sera défini par Gabriel de la Landelle comme l'action d'imiter les oiseaux, Michel Polacco.
Oui, alors vous avez raison, faut faire très attention aux mots. Par exemple, bon, tout ce qui vole, on appelle ça des aéronefs. Dans les aéronefs, on a les aérodynes et les aérostats. Alors les aérostats, ils n'ont aucun moyen de propulsion propre, ils vont au gré des vents, voilà, c'est les ballons comme la montgolfière ou les ballons à gaz. Dans les aérodynes, on va avoir les deux catégories, la catégorie plus léger clair, c'est-à-dire les ballons dirigeables, qui vont avoir une vie qui va durer un certain temps, et puis on va avoir les plus lourds que l'air. Mais les plus lourds que l'air, ça va être une longue aventure pour arriver à les développer. Hein. On a Lilienthal avec toutes ses tentatives en Allemagne, 2500 tentatives, et il va en mourir. On a Adair, et le mot avion dont vous parlez, en fait, le premier avion d'Adair, faut pas oublier qu'il s'appelle l'Éole, il ne s'appelle pas encore avion. Et c'est l'avion 3 qui va être l'apparition du mot avion dans le vocabulaire, qui va donner chez nous aviation, aviateur ou aviator chez les Américains. Mais pour l'appareil, ce sera flyer chez les Américains, ce sera pas avion. Hein. Donc vous voyez, il faut faire bien attention à tous ces mots, mais on a surtout aujourd'hui des objets qui sont essentiellement des aérodynes, c'est-à-dire des appareils qui sont capables de se propulser par leurs propres moyens.
Et vous parlez de Clément Adair, il va bénéficier de beaucoup de financements de l'État pour développer des avions justement.
Pas tellement, mais il ne faut pas oublier que Clément Adair est un type qui a énormément de génie, qui a inventé déjà beaucoup de choses, le théatrophone, etc. Il s'intéresse à toutes les techniques qui viennent d'apparaître autour de l'électricité, autour de la téléphonie, etc. Donc c'est un homme qui a quelques moyens, qui va surtout chercher des aides et chercher à convaincre. Quand il fait ses premières tentatives à Armainvilliers, à Gretz-Armainvilliers, avec l'Éole, certains témoins ont dit qu'il avait réussi à s'élever, d'autres l'ont dit moins clairement, et c'est vrai que c'est assez difficile de dire, quand on sait ce qu'on sait aujourd'hui sur l'aérodynamique des ailes de chauve-souris de l'Éole de Clément Ader, c'est assez difficile de dire qu'il est vraiment volé. Quand il fait voler son avion 3 à Satori, dans un espace circulaire en plus, il le casse, et c'est toujours avec ses ailes, avec imitation de chauve-souris, des puissances qui sont assez insuffisantes. Et donc, si vous voulez, il va pas obtenir d'argent des armées, et en fait, il va détruire ses prototypes, il va tout casser, il est complètement désespéré. Et pourtant, cet homme va écrire un ouvrage dans lequel il définit le futur de l'aviation et qui est un ouvrage totalement inoubliable, qui a déjà été réédité et qui est un véritable ouvrage visionnaire dans lequel il définit l'aviation civile, l'aviation militaire et tous les usages qu'on pourra en faire.
Alors il y a les inventeurs, il y a aussi un certain nombre de scientifiques dont les travaux vont permettre aux inventeurs de progresser. Justement, quels travaux servent alors aux inventeurs? On peut parler par exemple des travaux du professeur Marais, qui est spécialiste du vol des oiseaux. Il y a aussi le mathématicien britannique Arthur Cayley, qui expose le principe d'aéroplane, Luc Robin.
Alors, Étienne-Jules Marais, oui, certainement, parce que, alors il se penche effectivement, c'est pas son seul terrain, hein, mais il se penche effectivement sur la locomotion animale et en particulier le vol des oiseaux. Marais a élaboré un certain nombre d'instruments qui lui permettent, comme la chronophotographie, qui lui permettent de séquencer en fait autour d'images le mouvement et d'espérer comme ça pouvoir l'analyser. Marais, je reviens sur cette question. Il est aussi, tout comme Jules Verne, tout comme Nadar, très inséré dans ses réseaux, dans cette sociabilité du savoir aéronautique en train de se faire. Et tous les cours, par exemple, qu'il professe au Collège de France sur cette question du vol animal sont publiés, par exemple, dans la revue L'Aéronaute, sont diffusés. C'est un savoir mis à la portée de tous, discuté, en premier lieu, au service de cette communauté de savants, d'ingénieurs, de gens qui sont passés par Polytechnique et qui travaillent désormais la main dans la main, d'une certaine manière, sur cette question du vol. Oui, quelqu'un comme Marais a été vraiment, pour moi, essentiel dans un certain nombre de débats. Et notamment, puisqu'on en a parlé, sur cette question des possibilités d'envisager un vol plus lourd que l'air. Marais, par exemple, réfléchissait, essayait d'étudier la question du vol musculaire pour l'homme, essayait par des comparaisons de voir s'il était possible que l'homme puisse, tout comme l'oiseau, battre des ailes. Et voilà,
peut-être Arthur Cayley, pardon, vous interromps, qui montre l'importance des ailes et des hélices.
Alors des plans fixes, oui, tout à fait, et de la force motrice. Mais on est encore avec Hayley dans des projets qui n'ont pas été réalisés. Sur cette époque-là, disons le milieu du 19e et puis le deuxième tiers du 19e, on a beaucoup construit en revanche de modèles réduits. C'est-à-dire qu'on savait faire voler et se diriger des petites machines, même plus lourdes que l'air, mais avec des élastiques, des élastiques, mais on n'est pas encore passé au modèle taille réelle, pour des raisons qui ont très bien été mises en évidence par Michel Poulacot, pour des raisons de force motrice et l'électricité puis le moteur explosion vont rendre possible ces élans vers le ciel.
Vous évoquiez, Michel Poulacot, l'importance du ballon au moment de la guerre franco-prussienne de 1870. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que la quête du vol contrôlé va revenir au premier plan, parce qu'on se rend compte de l'importance militaire que peuvent revêtir ces ballons?
Alors, tout le monde n'en est pas convaincu, mais c'est vrai que c'est Gambetta qui va aider Charles Renard à développer à Meudon la construction du dirigeable La France. Parce que Gambetta, il en sait quelque chose, il aurait bien aimé que son ballon soit dirigeable, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc, il va être aidé par quand même un homme qui va être le fondateur de la Troisième République, qui est un dirigeant politique de première importance. Mais je ne crois pas qu'on en ait encore à avoir compris le rôle stratégique que peut avoir l'arme aérienne, si on peut dire, ou que peut avoir l'aviation, même civile, dans l'économie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Personne, à ce moment-là, ne l'a vraiment imaginé, sinon des quelques rêveurs, comme ça, un peu, en lisant un peu Jules Verne, en lisant un peu Adair, etc. Mais personne n'en a imaginé à ce point-là les effets. Et d'ailleurs, on commence la guerre de 14, je vais un peu loin, très vite, on a quoi, 250 avions prêts à partir sur le front en France, et on est le premier pays industriel de l'aviation au monde. Au monde. Vous voyez, c'est quand même faramineux. Devant, évidemment, les Allemands, devant les Américains, les Anglais, etc. Donc on va mettre quand même longtemps à réaliser l'importance de l'aviation.
Luc Robin ?
Oui, quand même, un impact de la guerre de 1870 et du lien qui peut exister entre l'État et de potentiels développements technologiques, c'est quand même la mise en chantier d'un dirigeable, le dirigeable de Dupuis de Lhomme, qui est un architecte naval, donc au lendemain, vraiment, hein, de la guerre. Et les fonds qui sont... Alors, on reste sur un dirigeable, et c'est très étonnant parce que la force motrice, c'est de mémoire, c'est 8 rameurs, hein, donc 8 gars qu'on met dans une... Hein, dans une nacelle et qui vont... Bon, évidemment, ça fonctionne pas. Et en plus, ça fait hurler de rage quelqu'un comme Nadar qui dit, voilà ce que fait l'État avec l'argent public, il finance des projets sur le plus léger clair, au lieu d'avancer sur la question du plus lourd clair. Donc, on revient aussi à travers cette question des investissements, par exemple, hein, sur ce débat entre plus et moins lourd que l'air.
Et c'est aussi une période, Luc Robin, où le vol en ballon est considéré comme un sport et comme une possibilité de se dépasser. C'est quelque chose qui se développe à ce moment-là ?
Pas encore, même si on... Alors quand on suit hein, les comptes rendus de la presse, spécialisés ou non, on voit que commence à se mettre en place des choses tout à fait nouvelles dans les années 1881, des parcours sous forme de défis ou des ce qu'on appelle des courses aériennes, mais donc un esprit, je dirais, de compétition est en train de naître, on est en train de sportiviser en quelque sorte l'aéronautique, mais c'est évidemment la naissance de l'Aéroclub de France en 1898 qui va véritablement entériner ce qui est en germe à partir des années 1880, c'est-à-dire la possibilité pour une élite hein, au départ et essentiellement sur la question des ballons de se lancer de nouveaux défis. Hein, après le cycle automobile, on aura les aérostats de sport, si je puis dire.
Et c'est créateur de toute une sociabilité. Le tourisme aérien, Maupassant par exemple, en a bénéficié. Par exemple, il se développe particulièrement à partir de 1880, Michel Polaco.
En fait, si vous voulez, vous avez d'un côté les touristes aériens qui sont parfois des célébrités, vous avez tous les records et tous les défis qui sont lancés dont parlait Luc Robin, et tout ça... comment dirais-je, assemblée, ça finit par faire beaucoup. Beaucoup de records, beaucoup de gens qui sont impliqués, beaucoup d'articles dans la presse, et ça débouche sur la création de l'Aéroclub de France, et ça débouche sur quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est quelque part la naissance de Santos Dumont, qui est arrivé en France avec sa famille au début des années 1890, et qui va se passionner pour l'aéronautique, mais les ballons au début, et qui va petit à petit faire fabriquer des ballons, se déplacer en ballon, être le gentleman ballon. Il ne faut pas oublier qu'il a un appartement sur les Champs-Élysées et qu'il se rend avec son ballon à pédales, muni d'une hélice, et qu'il arrive et qu'il accoste auprès de son appartement au milieu des Champs-Élysées. Mmh. C'est avec son petit chapeau, ce petit Brésilien, etc. Et c'est quand même l'homme qui va faire voler et qui va avoir le premier record avec le 14 bis à Bagatelle en 1906.
Mais justement, pour les aristocrates français, c'est aussi une manière de réaffirmer une certaine supériorité de classe, le fait de savoir diriger un ballon.
Alors, il y a beaucoup de choses. Effectivement, et c'est la logique du sport moderne au moment où on en est encore, enfin, où le sport moderne n'intéresse et n'est finalement pratiqué par ce que Veblen appelait la leisure class, c'est-à-dire la classe de loisirs, les riches. C'est un moyen d'aller plus loin et de prouver sa valeur. Un nouveau champ pour une nouvelle chevalerie, si vous voulez, pour le dire très vite. Mais en même temps, c'est aussi un marché. Et il faut pas oublier que des gens comme le marquis de Dion, par exemple, qui va être président de l'Aéroclub de France, est aussi un actionnaire de la grande presse. Donc il y a tout intérêt à ce qu'il y ait des exploits racontés par la presse parce qu'on vend du papier. Et c'est aussi un actionnaire de la firme de Dion Bouton. Et il va être de plus en plus impliqué, comme d'autres, hein, comme Michelin, comme d'autres, dans le développement de l'industrie aéronautique assez tôt finalement. Puisque de mémoire, la Chambre syndicale des industries aéronautiques, c'est 1909, il
oui.
me semble.
Oui, 1909, donc, l'année du premier grand salon de l'automobile.
Ce qu'il faut bien faire comprendre à vos auditeurs, c'est que là, on a une espèce de triangle magique avec des personnages comme ceux que je viens de citer, qui sont à la fois des nobles qui pratiquent un sport, qui dirigent un cercle élitiste, mais qui en même temps sont des investisseurs, qui ont au moins un pied dans la grande presse et un pied dans l'industrie aéronautique. Et que tout ça fonctionne en symbiose. C'est un système qui est en train de naître et c'est fondamental.
Et ça va durer un certain temps.
On commence à pressentir que ce marché est prometteur.
Voilà, on peut pas comprendre les développements de l'aéronautique et les renouvellements du sport et la manière avec laquelle la grande presse se développe si on tient pas compte de ça.
Et alors, ce qui est intéressant, on parlait de l'impact de la guerre de 1870, mais à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est encore le ballon motorisé qui va réveiller l'intérêt des militaires. Michel Polaco, il va y avoir l'expérience de Santos Dumont.
Nous, ça dépend. Chez les Allemands, on commande quelques ballons, mais en fait, c'est surtout les marins. On va commander pas mal de ballons d'observation, des ballons caco, vous voyez, des sortes de saucisses volantes, comme d'autres vont les appeler. Et puis, on va s'apercevoir très vite, si vous voulez, parce que ces ballons sont des ballons captifs. À bord, on met des observateurs. Et très vite, il y a quelques avions qui arrivent, qui sont au départ des avions d'observation. Puis, l'observateur, on lui donne un fusil. Et avec son fusil, il transperce les ballons et il tue les observateurs. Donc les ballons vont disparaître et finalement la guerre de 14 ne sera pas une guerre de ballons et on récupérera à la fin de la guerre de 14 quelques très beaux ballons dirigeables qui ont été construits par les Allemands, qui étaient essentiellement construits pour la marine et pour faire des missions maritimes et qui auront très très peu servi.
L'air, cet élément nouveau dont l'homme et son planeur éprouvent la solidité inattendue. L'homme volant glisse sur un matelas d'air qui le soutient d'autant plus quand il atteint une grande hauteur. J'ai résisté difficilement là-haut à des courants qui m'auraient transporté dans les nuages.
Et vous auriez conquis le ciel?
Non, jeune homme. La vraie conquête, c'est du ras du sol qu'il faut l'entreprendre. Quand je dévale une colline, je profite d'une force naturelle, le vent, qu'il m'est impossible de retrouver sur d'autres terrains. Le jour où je pourrais m'élever par mes propres forces du creux de la plaine, ce jour-là, je serai un oiseau.
Mais comment, c'est pas possible?
Si. Avec un moteur. Ce moteur qui remplace déjà les chevaux vous donnera aussi la puissance des cigognes. Les usines Benz avec qui je suis en rapport m'en fourniront bientôt un.
J'aimerais bien voir ça, moi.
Un extrait du premier épisode de la mini-série Les Faucheurs de Marguerite, produite en 1974. On entendait un dialogue entre le personnage principal de la série, Édouard Dabert, et Otto Lilienthal. La scène se déroule à la fin du 19e siècle. Alors, Édouard Dabert est un personnage inventé, mais Otto Lilienthal, lui, a vraiment existé. Et il a joué un rôle majeur dans le perfectionnement de l'art du vol-plané, Michel Polaco.
Alors, un rôle tout à fait majeur. En fait, il faut dire qu'il joue un rôle majeur dans l'art du vol, qu'on appelle planer au départ parce qu'effectivement il n'a pas de moteur. Et ça se passe à l'époque où l'automobile se développe et on va voir arriver les premiers moteurs à explosion pour les automobiles. Et donc d'un côté au sol, l'automobile se développe. En 1900, faut pas l'oublier, pour la première fois, un véhicule construit par des êtres humains dépasse 100 km/h. C'est une automobile électrique qui s'appelle la Jamais Contente, qui est exposée à Compiègne, si mes souvenirs sont bons. Et puis en Allemagne, on a Otto Lilienthal qui, dans les années 80-90, va effectuer 2500 vol avec un planeur. Et lui, alors, il fait à la fois la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il fait des calculs, il fait des vols, il refait des calculs, il fait des vols, il modifie ses planeurs, il modifie ses méthodes de pilotage de son planeur. Il se tue, hélas. Mais ce sont ses travaux qui vont être récupérés, parmi d'autres, par Octave Chanute, qui s'installe aux États-Unis, qui vont être utilisés par les frères Wright et qui vont être à la base de l'invention du Flyer, qui est le premier avion qui a les ailes qui vont bien et les gouvernes qui vont bien pour fabriquer un avion qui va devenir l'avion moderne.
Et alors un mot sur cette expression de faucheur de Marguerite qu'on utilise au début du XXe siècle.
Il me semble que c'est parce que les types passent...
Ils volaient très très bas, ils pouvaient pas voler haut.
On n'était pas encore à des altitudes extraordinaires.
Ici, les moulineaux, quand on volait à 10 mètres, on était très haut.
Oui, je reviens d'un mot sur cette histoire de vol plané. C'est essentiel, hein, ce que vient de dire Michel Poulaco, parce que il y a d'autres personnages. Il y a Ernest Arjdécon, par exemple, qui fait à Berck-Plage des essais de même nature. On a tout un ensemble de personnes qui sont plus ou moins en lien. Je pense aussi à Ferdinand Ferber, qui sera obligé de quitter l'armée et de faire ses expériences sous un pseudo, hein, de rue. Ferber qui connaît les expériences des frères Wright, parce que ça, c'est l'autre aspect. Les frères Wright ont masqué un petit peu ce qu'ils faisaient. Et cette question des vols planés est fondamentale parce qu'on essaie de travailler à la stabilité. Alors, il y a le moteur et il y a la stabilité en vol.
Il y a le moteur à essence qui va effectivement être une étape décisive. Et c'est effectivement la traversée de la Manche par Louis Blériot en 1909, qui est aussi une date clé, Luc Robben.
Oui, c'est une date clé. Enfin, au moins, on peut conserver... Il y en a d'autres, hein, mais 25 juillet 1909... Louis Blériot, qui n'est pas du tout un sportif dans l'âme, hein, évidemment la presse dont je parlais tout à l'heure l'a présenté comme un sportif.
Il fabrique des instruments automobiles.
Oui, il a fait deux carrières. Une première il a fait fortune dans les phares acétylène pour automobiles. Hein, c'est quelqu'un qui est passé par Centrale, bon, qui est un ingénieur. Et puis, il se lance. Il sent le marché prometteur dans la fabrication d'un aéroplane, mais au moment où il va gagner le prix du Daily Mirror ou du Daily Mail, je ne sais plus, il a les pieds brûlés, il est au bout du rouleau, il a plus d'argent. Hein, c'est presque quitte ou double. Et d'une certaine manière, il a vraiment remis. Et ça fait partie de quelque chose que je trouve assez touchant chez ces inventeurs, et on parlait du mythe d'Icare au début de l'émission, il a remis en jeu tout ça parce qu'il croyait vraiment que ça allait marcher. Et donc, oui, en cela, c'est une date fondamentale. En janvier 1908, Farman avait fait le premier virage maîtrisé, disons, sur un aéroplane. C'est une autre date, on pourrait en trouver d'autres.
Et Santos Dumont en 1906, qui quand même est une date marquante.
Voilà. On pourrait en trouver d'autres. Mais effectivement, ça a marqué les esprits. Blériot, 1909, d'autant que au même moment va se dérouler la grande semaine de Reims, et là on entre dans l'ère des grands meetings aériens.
Allez, on arrive presque au terme de cette émission, on va écouter un dernier récit.
C'était en décembre 1908. La maison Clément Bayard m'avait demandé si je voulais m'essayer à voler sur une demoiselle Santos Dumont. J'accepte, je monte au milieu déjà d'une cinquantaine de personnes qui étaient arrivées on ne sait où en disant « Il y a une femme qui va voler, il y a une femme qui va voler !» Vous avouerez vraiment que j'avais très peur. Je demande à un mécanicien « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour voler ?» Il me répond, on m'a dit, qu'il fallait tirer pour monter et pousser pour descendre. Il oublie simplement de me dire qu'il y avait un gauchissement à me mettre aux épaules, ce qu'on oublie complètement de m'installer avant mon départ. On lâchait tout, je tire pour monter. N'ayant pas de gauchissement, arrivé à 10 mètres du sol, mon appareil se renverse à moitié. J'ai peur, je repousse pour descendre et je me retrouve dans un grand trou de boue.
Les mésaventures d'Hélène Dutrieux, qui est la première femme à obtenir un brevet de pilote en Belgique. Qu'est-ce que vous inspire ce récit, Luc Robben ?
Elle est emblématique. Moi, j'aime beaucoup ce témoignage, c'est très touchant. Et elle est emblématique de ce moment où les femmes, justement, vont elles aussi s'emparer de l'aéroplane. Hein, c'est comme ça qu'on dit. On peut penser à Thérèse Pelletier, à Élise de Roche et à quelques autres qui ont été des figures marquantes. Hein, on les oublie souvent de cette aventure. Et en toile de fond, je dirais que ce qui va émerger à partir de 1909, c'est le premier aéroclub féminin, on l'oublie, qui s'appelle La Stella, qui est un rassemblement de femmes et d'hommes. Hein, elles sont pas sectaires. Mais c'est très important de voir comment une dynamique aéronautique et sportive, dès 1909, hein, c'est-à-dire avant la guerre de 14, se met en place. Et ces femmes sont là. Elles sont là.
Et justement, on va conclure avec la Première Guerre mondiale. C'est véritablement cette grande guerre qui mettra fin à l'ère des ballons, Michel Poulaco.
Pas tout à fait. puisque la Grande Guerre n'utilise pas les ballons, comme je vous l'ai dit, mais après-guerre, on va arriver pour la première fois à traverser l'Atlantique, par exemple, avec des passagers, avec des ballons dirigeables. C'est l'histoire du Hindenburg, qui est gonflé d'hydrogène. Il y aura la catastrophe de 1937, et ça va sonner le glas des dirigeables. Mais entre-temps, on aura eu des records et des records et des records incessants, avec des avions terrestres, avec des hydravions aussi. Il va y avoir une belle vogue pour l'hydravion, qui s'arrêtera à peu près à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, vous parliez des femmes, et je veux absolument pas qu'on oublie quelques femmes auxquelles je suis très attaché, comme Bessie Coleman, comme Jacqueline Cochrane, comme Jacqueline Auriol, comme Adrienne Bolland, qui a traversé la cordillère des Andes. Et puis plus moderne, la médecin Valérie André, pilote d'hélicoptère, 98 ans en ce moment, ici parmi nous. Et puis Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace au monde.
Et Gaby Morlaix, qui avait son brevet de pilote dirigeable.
Absolument.
Honneur leur est rendu. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous faire aujourd'hui l'éloge du salaire minimum.
Mais oui, longtemps considéré par les économistes classiques comme un frein à la croissance et à l'emploi, il semblerait que le revenu minimum connaisse aujourd'hui un retour en grâce pour ses vertus en matière économique, sociale et même sanitaire. L'économiste Gilles Raveau explique ainsi dans un article publié par l'hebdomadaire Alternatives Économiques que de nombreuses études empiriques ont permis de battre en brèche l'idée selon laquelle l'instauration d'un salaire minimum aurait un effet négatif sur l'emploi, que ce soit au Royaume-Uni qui a adopté un salaire minimum en 1999 ou en Allemagne qui fit de même en 2015.
Bien au contraire, l'instauration d'un revenu minimum aurait permis, en renchérissant le pouvoir d'achat des ménages, de stimuler la consommation avec un impact positif sur l'emploi.
Exactement, une logique de cercle vertueux pourtant bien connue et documentée, mais les économistes classiques préféraient jusqu'à présent voir dans l'instauration d'un revenu minimum une rigidité supplémentaire pour l'entreprise, la contraignant dans sa capacité de développement. Une vision hautement idéologique qui fait du salaire et donc du travailleur la principale variable d'ajustement de l'entreprise, ou plutôt son principal frein. Or justement, certaines études démontrent que le coût du travail, comme on l'appelle, trop souvent mobilisé par les entreprises et les gouvernements pour peser à la baisse sur les salaires, est loin d'être le seul à avoir une incidence sur l'emploi. Il faut également prendre en compte l'impact non négligeable du coût du capital, à savoir les intérêts versés aux banques et surtout les dividendes accordés aux actionnaires qui se sont envolés ces dernières années mais qui intéressent toujours moins que le fameux coût du travail.
La hausse du salaire minimum aurait surtout un effet bénéfique pour l'ensemble de la société.
Absolument, et pour étayer cette affirmation, Gilles Raveau se tourne vers les États-Unis, gigantesque laboratoire d'observation des effets sociaux et sanitaires de l'instauration du salaire minimum. Il faut dire qu'au niveau fédéral, le salaire minimum est à un niveau misérable, à peine 7,25 $ de l'heure, mais que les États-Unis sont libres de mettre en œuvre, une obligation salariale plus élevée. Ainsi, la Californie, le Massachusetts ou encore l'État de New York se sont engagés à le porter à 15 $ de l'heure d'ici à 2025. Cette mesure figure également dans la majorité des programmes des candidats démocrates qui entendent modifier la loi au niveau fédéral. Or, selon le sociologue Matthew Desmond, les bienfaits du salaire minimum seraient aujourd'hui largement sous-estimés. Ainsi, le premier bénéfice de ce dernier serait de permettre une réduction du temps de travail. Les personnes percevant un meilleur salaire n'ayant plus nécessairement à cumuler 2 voire 3 emplois en travaillant jusqu'à parfois 80 heures par semaine.
Et cela a une véritable incidence sur leur santé et leur prise de décision, Arjuna.
Oui, car en diminuant la charge de travail et le stress associé, les personnes sont plus reposées, elles ont plus de temps pour prendre soin d'elles-mêmes et notamment mieux se soigner. De même, les études menées par Matthew Desmond prouvent que le salaire minimum réduit les violences conjugales et les mauvais traitements infligés aux enfants. Bénéficier d'un salaire décent est également bénéfique pour lutter contre la dépression, pour favoriser un régime alimentaire plus sain ou mieux dormir. Une mesure qui a donc non seulement un effet économique et social, mais aussi une véritable incidence sur les corps eux-mêmes. A l'inverse, les bas salaires sont fortement dommageables pour la santé des travailleurs. Ils devraient donc être combattus, comme le conclut Gilles Raveau, au même titre que les autres maladies professionnelles. On ne saurait dire mieux. Des éléments qui pourraient d'ailleurs nous intéresser et nous inspirer à l'heure où l'on s'interroge sur les moyens de redonner du sens et un esprit commun au projet européen.
On se quitte avec Airplane du français Skens. Merci beaucoup Luc Robin et Michel Polaco de nous avoir accompagnés dans cette odyssée aérienne. Demain, c'est la domination de Boeing et d'Airbus sur le marché de l'aéronautique que nous allons interroger. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.